Cette semaine, Émilie Chaudet rencontre Éric Hazan. Ce soir, une maison d'édition politique au sens fort.
Chez vous, Éric Hazan, il y a toujours une porte ouverte quelque part, un passage possible. Vous le dites vous-même, il n'y a pas de pas perdu. C'est le sous-titre et l'exergue de votre premier livre, L'Invention de Paris, publié au Seuil en 2002. Il n'y a pas de pas perdu. En d'autres termes, on gagne toujours à aller voir. Vous avez aujourd'hui 81 ans, et dans votre vie, il y a eu cette rupture centrale à plus d'un titre, puisqu'elle est intervenue alors que vous aviez un peu plus de 40 ans. Vous avez quitté votre blouse de chirurgien pour vous lancer dans l'édition. Mmh. Depuis 20 ans maintenant, vous dirigez La Fabrique, votre maison d'édition qui publie ou republie des auteurs comme Jacques Rancière, Amira Haas, Édouard Saïd, Alain Badiou, Robespierre, Walter Benjamin, Enzo Traverso, Frédéric Lordon, Dominique Aidé, Karl Marx, Auguste Blanqui, Le Comité Invisible ou vous-même. C'est volontairement que je mélange et que vous mélangez sans doute dans votre corpus d'auteur les plumes du présent et celles du passé, des allers-retours pour raconter une autre histoire avec un grand H. Et des allers-retours, il va en être question toute cette semaine avec vous, parce que votre parcours est tout sauf linéaire, et nous allons aussi éviter la linéarité dans cette série d'entretiens. Nous commencerons donc par le présent. Bonsoir Éric Hazan.
Bonsoir.
Et le présent, eh bien, c'est ici, dans votre maison d'édition, La Fabrique, où nous nous trouvons. C'est un tout petit lieu en rez-de-jardin.
40 mètres carrés.
4 bureaux. Et ça rappelle les débuts de votre maison d'édition. Vous avez commencé dans votre appartement avec un petit groupe de personnes. À quoi répondait à cette époque-là, en 1998, cette urgence de fonder La Fabrique, Éric Hazan?
C'est difficile de répondre à cette question. J'ai toujours l'impression d'inventer les raisons. Parce que les vrais, au fond, je les ai oubliés 20 ans plus tard. Moi, je dirais que sortant des éditions Hazan, qui étaient des éditions d'art, art, architecture, photo, etc.
La maison d'édition de votre père.
La maison d'édition fondée par mon père après la Libération. Donc, sortant de cette maison-là, j'avais envie d'avoir une activité qui soit très clairement politique. Et dans ma tête, dans notre tête en fait, parce qu'on a été vraiment deux à fonder La Fabrique, Stéphanie Grégoire et moi, dans notre tête on avait vraiment l'idée d'une maison d'édition politique au sens fort du terme. Parce que avec les éditions Hazan, j'avais essayé, il y avait pas mal de départements, enfin de lignes, de collections, qui avait un côté politique, mais on peut quand même pas, avec la peinture, la photographie, l'architecture, tout tirer vers la politique, ça serait pas juste.
Alors, je vais vous aider à retrouver les vraies raisons de la création de La Fabrique. En tout cas, je vais prétendre vous y aider. Vous dites, avant La Fabrique, ça faisait déjà 14 ans que vous étiez reconverti dans l'édition. Avant de parler plus précisément des années où vous avez repris la maison d'édition Hazan et puis l'époque Hachette, j'aimerais vous citer un passage du début d'une traversée de Paris, le livre que vous avez publié en 2016. Ce passage où vous arrivez à la hauteur de la sculpture du lion, place d'Enfer Rochereau, vous écrivez « Il se trouve que j'ai avec ce lion une relation personnelle. Plus exactement, j'ai envers lui une dette, car il est lié à un virage décisif dans mon existence. » C'était en 1981, une nuit, appelée pour une urgence, je me trouvais bloquée dans ma voiture par les feux qui sont longs à passer au vert sur la place, et en regardant le lion, il m'apparut soudain comme une évidence que je ne continuerais pas la même existence pendant 20 ans de plus. À quoi précisément avez-vous pensé à ce moment-là, et quel homme étiez-vous à ce moment précis, Éric Hazan?
Je me rappelle très bien cette histoire de lion, cette nuit-là où j'étais appelé en urgence, et je me suis dit, je me rappelle m'être dit, bon, tu as plus de 40 ans, si tu veux changer, et je crois qu'il faut, eh ben c'est maintenant qu'il faut penser à ce que tu veux faire. J'avais pas spécialement une vocation à devenir éditeur, hein. Non, non. Par contre, l'envie d'arrêter la chirurgie, oui.
Pourquoi ?
C'est compliqué à dire, mais bon, on peut le dire, ça. Il y a plusieurs choses qui ont joué. La première, c'est que, disons, la chirurgie cardiaque, qui était ma spécialité, que j'avais commencé, disons, pendant l'internat, quoi, dans les années 60, elle arrivait à un plateau. Jusque-là, on peut dire que tous les jours, il se passait quelque chose de nouveau. Et puis, à un moment donné, le progrès, les nouvelles idées, les nouvelles techniques, ça n'est plus cela la question. Si on veut que les malades soient mieux soignés, ça devient une question d'infrastructure, d'intendance, comme disait De Gaulle. Hein. Il fallait que l'hôpital soit mieux organisé, qu'il y ait plus de ceci, plus de cela. Et ça, c'était au-dessus de mes moyens. Techniquement, il n'y avait plus tellement de progrès quotidien. Et pour le reste, c'était au-dessus de mes possibilités. Ça, c'est une des raisons. Il y a une autre raison aussi, au fond, peut-être plus vraie, plus importante. Je crois que la somme de, appelons ça amour ou appelons ça fraternité humaine, qu'on peut donner dans une vie, je ne crois pas qu'elle soit illimitée. À un moment donné, la maman qui attend derrière la porte de votre bureau, alors qu'on a bien demandé qu'il n'y ait pas de maman derrière la porte de votre bureau, mais elle est quand même là, eh bien, on l'a au diable. Et je me rappelle très bien d'un de mes maîtres, un type qui avait vraiment créé la chirurgie cardiaque française, un as. Il s'était fait construire un escalier en colimaçon pour aller directement du fond de son bureau à sa voiture sans passer par, justement, la porte avec... Eh bien, ça, non.
Avec les parents, oui, qui attendent.
Ça, non. Donc, je me suis dit, si tu commences à éprouver ce sentiment de lassitude, faut arrêter. Faut faire autre chose. Je savais que j'allais partir de l'hôpital. Ça, j'en étais convaincu. Mais pour devenir éditeur, oui, peut-être. Enfin, c'était quand même...
Mais qu'est-ce qui vous a poussé vers l'édition, Éric Azan ?
La facilité, peut-être. Hein, il y avait cette maison qui était en sommeil. Hein. Ça dormait un peu, il n'y avait plus beaucoup de titres, ça somnolait un peu. Mais c'était encore une maison qui avait une réputation, justifiée, méritée. Elle avait été formidable 15 ans, 20 ans avant. Formidable, d'avant-garde.
Pourquoi elle s'endormait à cette époque-là ?
L'âge, la routine, les difficultés d'argent. Finalement, l'activité était très restreinte. Mais ça existait. Donc c'était un bon parachute, au fond, le plus facile.
Où était votre père à ce moment-là, au moment où vous avez repris cette maison d'édition ?
Il était dans la maison d'édition, avec ma mère, ce qui simplifiait pas complètement les choses. Et il habitait toujours à un même endroit où j'ai passé mon adolescence, puisque l'enfance, c'était la guerre, où j'ai passé mes années de lycée. Une petite rue qui est entre le Faubourg Saint-Jacques et l'avenue Nanfay-Rochereau, qui s'appelle la rue Cassini, qui longe la façade de l'Observatoire.
Donc votre mère aussi travaillait aux éditions Azan ?
Oui, elle s'occupait d'un secteur qui était financièrement le plus rentable, qui était l'édition de cartes postales et de reproductions.
Votre oncle était aussi éditeur ? Votre
libraire,
grand-père ?
Libraire, mon oncle était libraire.
Et votre grand-père aussi ?
Mon grand-père était libraire. Le père de mon père était libraire au Caire. Mon oncle était libraire avenue Georges V. Il avait une librairie chevaline.
Donc le livre avait quand même une importance dans votre famille.
Oui.
Comment vous êtes emparé du livre tout au long de votre vie ?
Tout au long de ma vie ?
En tout cas depuis l'enfance et après tout au long
de l'enfance, bon, j'ai... L'enfance, encore une fois, c'est pas vraiment l'enfance, hein, puisque... l'enfance, c'est la guerre. L'adolescence, les années de l'enseignement secondaire. Hein. Comment j'étais par rapport au livre ? J'en entendais parler toute la journée. J'étais chez mes parents, on parlait que de ça. Une oreille comme un gosse, quoi.
De quoi on vous parlait ? De quels auteurs ?
Mon père, il fréquentait Matisse, il fréquentait Picasso, il fréquentait Dali, il fréquentait tous les grands de cette époque, il les a connus. Picasso était charmant. On allait à ce moment-là, l'éditeur allait présenter à l'artiste les épreuves des livres qu'on allait imprimer. Et Picasso, il disait, c'est formidable, c'est mieux que l'original. Alors que c'était pas le cas de tout le monde.
Vous dites que vous avez choisi l'édition par facilité. Or, ça n'a pas été très facile pour vous au début.
Non.
Dans votre livre que vous avez publié à La Fabrique tout récemment, « Comment aboutir à un livre », vous dites que vous n'auriez pas été contre deux ou trois conseils au début.
Quand j'ai quitté la chirurgie pour prendre la maison d'édition,
oui.
Je ne connaissais rien à rien. Il y avait quand même, entre le moment où j'entendais parler du livre chez moi et le moment où je me suis retrouvé aux éditions Hazan, il s'était passé les 20 et quelques années où j'étais chirurgien et où le livre, il était loin, très loin. Je n'avais pas le temps. C'est ça le drame de ce métier de chirurgien, c'est que ça abrutit complètement.
Il n'y avait aucun livre qui vous accompagnait à l'époque ?
Si, je lisais des livres, bien sûr. Je lisais des livres.
Lesquels, par exemple, est-ce que vous avez des souvenirs, des auteurs qui vous ont accompagné à cette époque-là ?
Sûrement Stendhal, sûrement Proust, sûrement Balzac. Enfin, comme tout le monde, quoi. Hein.
Je sais pas.
Rien d'original. Rien d'original. J'ai... Encore une fois, le métier de chirurgien, ça, c'est décérébrant. J'aurais pu... C'est quand même les années où j'aurais très bien pu connaître Michel Foucault. J'étais interne avec son frère, il m'en parlait souvent. J'aurais pu connaître Deleuze, j'aurais pu... C'est cette époque, hein. Eh bien, rien de tout ça. Rien de tout ça. Non. Quand on est chirurgien, surtout chirurgien cardiaque, à cette époque où la chirurgie cardiaque était très compliquée et dangereuse.
On va y revenir dans un prochain épisode. Oui.
Eh bien, on n'a pas le temps de se cultiver, on n'a pas le temps de lire de la philo, on n'a pas le temps. Donc, j'ai repris cette maison d'édition en 83.
Vous aviez 45 ans, c'est ça ?
47 ans. J'ai repris cette maison d'édition sans rien connaître à rien.
Et votre père, il ne vous donnait pas de conseils à cette époque-là ?
Ça ne s'est pas très très bien passé, la transmission. Les éditeurs, ils ne lâchent jamais gaiement. C'est toujours compliqué pour un éditeur d'arrêter. C'est un peu comme si on leur arrachait leur tripe. Alors, en plus, il y avait ma mère. Tu vois. Non, la transmission ne s'est pas bien passée.
Qu'est-ce qui s'est
conflictuellement même. Oh, j'ai pas trop envie d'en parler, mais enfin, c'était conflictuel.
C'était d'autant
donc,
plus
il n'y avait pas tellement de conseils à en attendre. Bon, il y avait des gens qui bossaient là. C'était une toute petite équipe. Enfin, il y avait quand même une ou deux personnes qui connaissaient le boulot, heureusement. Mais enfin, dans l'ensemble, il a vraiment fallu que j'apprenne tout. Et là, j'ai eu la chance de faire des rencontres vraiment... sans lesquels je ne sais pas ce que je serais devenu. D'abord la rencontre de Jean-Christophe Bailly, qui a longtemps travaillé aux éditions Hazan, et qui a apporté non seulement son charme, sa gaieté, son énorme culture, aussi bien en littérature que dans le domaine de l'art moderne. Parce que pour mes parents, pour les éditions Hazan jusque-là, l'art moderne, c'était l'impressionnisme. Mais l'art du moment... Enfin, j'exagère un petit peu, j'ai parlé de Picasso, de Matisse. Enfin, disons, les grands ténors, mais l'art qui se faisait en 1980, non. Alors que Jean-Christophe Bailly, lui, il le connaît, il le connaissait, il le connaît toujours. Et puis, lui m'a fait connaître un graphiste de génie, qui a été au fond le maître... de toute une génération, et qui continue d'être en sous-main le maître de beaucoup de graphistes actuels. C'était un Polonais. Je me suis dit, c'était parce que, à force de vodka et de gauloise, il a fini par mourir. Il s'appelait Roman Cislewicz. C'était un affichiste polonais, et c'est devenu un graphiste. Et lui, À cette époque-là, on parle de l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur. Hein, 80, pas d'ordinateur. Du moins, pas de portable. Donc, Sislevitch, vous lui donniez les épreuves du livre en bande, hein, parce que les épreuves étaient en rouleau. Vous lui donniez la pile des images, dans l'ordre. Une paire de ciseaux, du scotch et des gauloises. Et il construisait le livre dans la nuit. Non, pas un livre de 500 pages, mais un livre comme on faisait pas mal de petites monographies de 150, 200 pages. Il le faisait en une nuit au scotch. En collant les images et en collant les épreuves sur un gabarit. C'était beau, c'était formidable ce qu'il faisait.
Je voudrais juste revenir un instant sur ses débuts. Vraiment, ces débuts dans l'édition, la reprise de La Maison de votre père, vous, quand vous disiez « j'ai choisi la facilité » et que finalement vous vous êtes retrouvé confronté à un père qui ne voulait pas forcément lâcher, est-ce que vous vous attendiez justement à cette première difficulté qui est la reprise ?
Disons, le conflit, je ne l'attendais pas du tout. Sinon, je ne serais pas allé.
Vous aviez d'autres idées en tête à cette époque que l'édition ?
Non. J'ai tourné dans ma tête, je me suis dit, je ne vais pas aller élever les escargots ou des chèvres, je ne sais pas faire, qu'est-ce que je sais faire, rien. Voilà, il y a cette maison d'édition, au fond, pourquoi pas.
Donc vous vous êtes retrouvé confronté, à votre grande surprise, à un mur ?
Un mur, peut-être pas, mais enfin, disons, c'était pas simple, ce passage de relais ne s'est pas fait de façon harmonieuse, c'est sûr. Et j'ai aussi fait la connaissance de deux élèves de Sislevitch, qui depuis sont devenus l'un et l'autre d'excellents éditeurs. C'est Xavier Barral et Dominique Carré. Et les deux, ils m'ont vraiment appris à métier, parce que c'est quand même un métier. Hein.
Alors ce que vous avez appris justement, vous en parlez dans « Comment aboutir à un livre », ce livre donc, que vous avez publié en 2016 à La Fabrique. Vous parlez des années très dures pour vous, financièrement également, à la tête des éditions Azan, qui ont été reprises par la maison Hachette. Vous parlez donc d'années très dures pour vous, et vous dites de cette époque Hachette que vous n'avez rien appris de l'édition, mais que vous avez plutôt appris le sens des mots arrogance et intimidation à ce moment-là. Qu'est-ce que ça a voulu dire pour vous ?
Les difficultés financières des éditions Azan, elles sont venues de plusieurs choses. On a oublié complètement, ça c'est vraiment parti de la mémoire, disparu de la mémoire collective, qu'en 1991 il y a eu une crise très grave, en particulier bancaire. Les banques se sont ramassées des ardoises incroyables dans l'immobilier. Donc les banquiers qui jusque-là tenait l'édition pour une sympathique danseuse, ou disons, ouais, c'est ça. Financer l'édition, c'était servir l'art. Le banquier qui dirigeait le groupe d'agences de la BNP du 6e arrondissement, où étaient tous les comptes des grands éditeurs, il se vivait comme Laurent le Magnifique, comme un mécène. Quand on allait le voir, on ne parlait pas d'argent. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous nous préparez de beau alors pour cet automne ? Alors on disait, bon, on va faire un pisanello. Ah, pisanello. Et sur le pas de la porte, en partant, en disant, bien entendu, ce pourquoi vous êtes venu, bien sûr, il n'y a pas de problème. Quasiment au moment de sortir. Eh bien ça s'est terminé en 91. Parce que y a eu la crise et les créances douteuses ont été pourchassés par des jeunes gens aux lèvres minces et aux costumes de flanelle, et qui avaient une calculette à la place de la tête. Et à ce moment-là, il a dit « Votre découvert est de X, vous êtes à 3X, quelles mesures comptez-vous prendre ?» Alors, au début, j'ai rigolé. Je disais « Avec les progrès de la photogravure actuelle, je peux faire de la fausse monnaie d'excellente qualité », ça ne les a pas fait rire du tout. Donc finalement, à partir de ce moment-là, On était de plus en plus endettés, on faisait des livres de plus en plus beaux, on était de plus en plus endettés, jusqu'au moment où il n'y avait plus de solution possible, c'était impossible de rembourser, impossible. Donc il fallait ou bien déposer le bilan, ou bien se vendre, et j'ai vendu à Hachette. J'avais le choix entre Hachette et un groupe qui s'appelle aujourd'hui Editis, qui s'appelait à l'époque, je ne me rappelle plus, il a changé de nom très souvent. Il s'est appelé Avas, il s'est appelé la CEP. C'était au départ le groupe de la Cité. Et bon, j'ai choisi Hachette.
Vous savez pourquoi vous avez choisi Hachette ?
Les autres étaient ouvertement détestables. Et les gens d'Hachette étaient d'apparence plus polis.
Ouvertement détestables, c'est-à-dire ?
Il y avait un type qui était... Je me rappelle très bien. À un moment donné, j'ai fait partie du syndicat de l'édition. Parce qu'il fallait des petits. Alors moi, je n'étais pas le plus petit. J'étais juste au-dessus du plus petit. Donc j'ai fait un an ou deux, j'ai fait partie de ce syndicat de l'édition. Donc j'ai connu ces gens. Je les ai vus travailler. Et j'ai vu comment, par exemple, les gens de Avas, CEP, là, je ne me rappelle plus de leur titre, de leur nom exact à ce moment-là. J'ai vu combien ils étaient méprisants, agressifs et désagréables avec Jérôme Lindon, qui était au syndicat de l'édition.
Les éditions de Minuit.
Qui était vraiment, d'abord, un homme formidable, et ensuite, une maison... C'est un monument historique. C'était vraiment... à l'époque, Maspero n'était déjà plus un éditeur. Non. Eh bien, Lindon, c'était vraiment le personnage devant lequel il fallait montrer au moins du respect, et cela ne le faisait pas, donc ça me les rendait odieux.
Revenons à la fabrique, si vous le voulez bien, Éric Hazan. Voilà, donc vous vous retrouvez en difficulté. Donc,
chez Hazan.
Chez Hazan.
Pas à la fabrique.
Oui, bien sûr, chez Hazan. Donc Hachette vous rachète.
Oui.
Et là, ça se passe assez mal.
Oui.
Peut-être pas tout de suite.
Pas tout de suite. Moi, tout le monde m'a dit, tu vas voir, ça va être infernal. Et moi, je me dis, mais pourquoi, au fond, moi, j'ai pas mauvais caractère, ces gens-là. Et en fait, ils m'ont... La conversation qu'on aurait dû avoir, normalement, qui aurait été de dire, bon, écoutez, vos éditions, c'est très bien. Ça perd par rapport à Lagardère, parce que Hachette, c'était Lagardère, c'est toujours Lagardère. Ça perd 3 cacahuètes, essayons de ne pas en perdre 3, essayons d'en gagner 2. Quoi. Alors, comment on pourrait faire ? Jamais j'ai eu cette discussion, jamais personne ne m'a parlé ce langage évident. J'ai eu un type qui est venu, qui n'était pas un mauvais d'ailleurs, qui a fait une belle carrière après, mais le message c'était 2 boîtes de trombone, non, une boîte de trombone. Des tickets restaurants pour les stagiaires, non, pas de tickets restaurants pour les stagiaires. C'était ça, la politique. Et puis, un système où tous les nouveaux projets, il fallait montrer qu'ils allaient être rentables dans l'année. Or, en matière de livre d'art, c'est une méconnaissance complète de ce que c'est qu'un livre d'art. Un livre d'art, il n'est jamais rentable dans l'année. Il ne peut pas l'être. Il peut l'être, il lui faut du temps. Donc, très rapidement,
vous vous séparez.
Très rapidement, on s'aimait plus beaucoup, oui. Il y avait en particulier, je me rappelle très bien, une séance, tous les premiers lundis du mois, une séance dite commerciale, qui était vraiment là une séance d'intimidation. Il y avait tous les chefs de maison, dont moi donc, autour d'une table, une très longue table, avec un rétroprojecteur qui projetait des chiffres, les chiffres du mois, au fond, en noir et blanc, à peu près illisibles. Et on vous demandait de commenter vos propres chiffres que vous découvriez à ce moment-là. Si on avait vraiment voulu discuter, on les aurait auparavant mis à votre disposition. Non, là, on les projetait de façon à ce que vous ne pouviez pas bien les voir, et il fallait les commenter. Alors, moi, je faisais des pirouettes, je disais n'importe quoi.
Votre expérience chez Hazan, Hachette, aurait pu vous vacciner du monde de l'édition. Or, vous avez choisi de continuer pour fonder votre maison d'édition.
Oui, mais vacciner quand même. C'est-à-dire, de ce que j'ai tiré de cette expérience, c'est pas de grandes équipes, parce que chez Azan, on avait fini par être 30.
Et on le voit là, d'ailleurs, dans votre bureau à la fabrique, il y a 4 bureaux.
Dont un stagiaire. Donc il y a 2 gens qui touchent les salaires et moi. Donc on est 3, en fait. 3 et un stagiaire. Donc 1, petite équipe. 2, pas un sou de dette aux banques. Et ça, je m'y suis tenu. Nous nous y sommes tenus. Nous n'avons pas un sou de dette aux banques, ni auprès de qui que ce soit du reste. Nous ne devons d'argent à personne.
Ça a été difficile au début. Vous dites que vous avez mis du temps à pouvoir vous payer, à pouvoir payer les gens qui travaillaient
oui,
avec vous.
Oui. Il faut penser que on arrive à un niveau de rentrée, je dis pas de bénéfice, un niveau de chiffre d'affaires qui permet de payer des salaires au bout de plusieurs années. On peut pas fonder une maison d'édition. Sauf si on a gagné le gros lot, mais on peut pas fonder une maison d'édition et dire voilà, on va travailler à 5 là-dedans avec des salaires. C'est pas possible. Sauf avoir une fortune personnelle qu'on investit là-dedans.
Une dernière question, Éric Azan. Votre premier livre, vous le publiez, vous, en 2002, en tant qu'écrivain, c'est L'Invention de Paris. Est-ce que on peut dire que vous n'auriez jamais écrit si vous n'aviez pas fait du livre au préalable votre métier en tant qu'éditeur? Est-ce que l'édition vous a appris à devenir écrivain?
Je pense que oui. En particulier, L'Invention de Paris doit énormément à tous les auteurs des éditions Azan qui ont écrit pour ces éditions des livres sur Paris. On a publié plusieurs très bons livres sur Paris. Et ces gens-là, ces auteurs-là, c'est ça qui est bien dans l'édition, c'est qu'on apprend avec les auteurs. Donc ils m'ont vraiment énormément appris de ce qu'il y a dans ce livre d'ailleurs. Oui, la réponse à cette question, est-ce que le fait d'être dans le livre m'a incité à écrire ce livre? Oui, à coup sûr, à peu près sûr, disons.
Merci Éric Azan.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Émilie Chaudet avec Éric Azan. À voix nue, réalisation Olivier Guérin, prise de son François Rivalan, coordination Claire Poinsignon. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.